sexuelles. C'est vraiment des victimes de cette drogue du viol, donc qui ont perdu un peu le contrôle d'eux-mêmes. Puis là, on évalue à savoir pourquoi ces victimes-là n'ont pas de crédibilité. Au niveau policier, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux quand tu as été drogué? Combien de temps ça prend aussi? Les trousses, l'évolution qu'on a, elle parle même avec... François Bonnardel, qui est le ministre de la Sécurité publique. Fait que c'est vraiment un documentaire qui est super intéressant. Puis ça nous a accroché l'œil, là. Moi, je l'ai déjà vécu. Fait que c'est sûr que d'écouter ce documentaire-là, ça rappelle
toi,
un peu des...
déjà fait empoisonner.
Moi, je me suis déjà fait droguer il y a... ça fait 10 ans maintenant.
Ouais.
Par des gens que je connaissais, ce qui est assez particulier. Puis ce qui est spécial, c'est que c'est une vulnérabilité qui est comme... qui est incomparable, là, dans la mesure où quand tu le sais pas, en plus, même si tu es entouré de gens que tu connais, c'est très paniquant. Là. Puis tu perds le contrôle très rapidement aussi, là, tu perds connaissance, en fait. Et puis moi, je me suis retrouvée à l'hôpital. Là. Fait que c'est vraiment pas un sentiment qui est trippant. Puis on apprend toutes sortes d'affaires dans ce documentaire-là. T'sais, on apprend qu'il y a des gens qui font ça pour le plaisir, là, que c'est même pas dans un but d'agresser sexuellement ou de voler nécessairement. C'est juste de voir des gens perdre le contrôle d'eux-mêmes, finalement.
Fait qu'exemple, des gens qui vont dans un bar, puis qui spot une gang de gars ou de filles qui ont l'air d'avoir ben du fun, tout d'un coup, ils les approchent. « Hey, salut, comment ça va? » On met un peu de GHB dans le pichet, puis on sac notre cap, on les observe de loin.
Exactement.
Ça, c'est épouvantable.
Mais c'est d'une tristesse pour vrai, là. Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser. Où est-ce qu'on en est? Y a-tu tant de gens que ça qui se font encore droguer? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle pas assez? Si vous avez des questions, 88-971-102.
Ouais, parce que, tu sais, j'ai vu le documentaire, là, puis je pensais à ça, là, Audrey.
Ouais.
T'es dans un... Moi, je calcule tout le temps mes verres. Mettons que je bois dans un verre qui provient d'un pichet, ben c'est tout le temps deux verres max, puis après ça, ma soirée est finie, je m'en vais sur la bière sans alcool, puis j'ai pas de trouble avec ça.
Oui.
Mais si je prends un ou deux verres max, puis après ça, moi, je pense que je suis correct, puis tout d'un coup, je m'en vais, j'embarque dans mon char, puis je sac mon camp, puis l'effet du GHB commence...
C'est épouvantable.
J'ai un danger potentiel pour moi, j'ai un danger potentiel pour les autres. Je risque un casier criminel.
Ouais.
Je dis quoi à la police?
Ouais.
Je dis quoi au juge? Hey, excusez-moi, monsieur le juge, je me suis fait droguer au GHB.
Non, puis ça, c'est un énorme bon point que t'amènes parce que la crédibilité quand tu as été drogué, elle est pratiquement nulle parce que tu as peu de souvenirs. Ah non, c'est vraiment épouvantable. Puis ça prend un moment avant de kick-in, effectivement. Fait que ça peut être ultra dangereux. Ça a vraiment été c'est une belle entrevue qu'on va avoir, en fait, là, au retour de la pause avec Marie-Ève Tremblay. Puis vous avez des questions, encore une fois, 971-1021. Moi, je réalise à quel point c'est arrivé à des gens, mais les gens n'en parlent pas.
Exact. Mandy Monaco, le clan de la savate sur Boulevard. Vous avez des choses à nous dire. C'est le 88-971-1021. Bonne journée. We'll be right back.
Aujourd'hui aux nouvelles. Le Quickie News de Max.
Excellent mercredi 4 décembre, journée internationale des banques aujourd'hui. Et on est dans le thème parce que c'est la Ville de Québec qui présente son dernier budget avant les prochaines élections municipales ce matin. Bruno Marchand qui a déjà annoncé plus tôt cette semaine une hausse de taxes à 2,9% pour 2025 avait mentionné à ce moment-là que la décision venait de lui, le boss, pour respecter la capacité de payer des citoyens. La municipalité de Lac-Beauport, pendant ce temps, a adopté hier son budget d'environ 24 millions de dollars. Ça comprend un gel du compte de taxes moyen pour les secteurs résidentiels et commerciaux, mesure qui est prise en raison de l'explosion de la valeur des maisons avec le nouveau rôle triennal d'évaluation. Ce que Radio-Canada nous rapporte, c'est que les tarifs pour les services d'aqueduc, d'égout, des matières résiduelles et de l'éclairage sont tous gelés pour la prochaine année. Par contre, la tarification pour la gestion des installations septiques va monter un petit peu. L'an dernier, le compte de taxes qui avait monté de 9,4% à Lac-Beauport. Et dans un nouveau sondage léger, le journal Le Bloc québécois reste bien en tête dans les intentions de vote au Québec. Les conservateurs perdent 2 points pour rejoindre les libéraux à 22%, alors que l'NPD a un petit regain de vie avec 2 points de pourcentage de plus là, pour nous mener à 15%. On est bien sûr là, au fédéral. Plus de 7 Québécois sur 10 perçoivent le gel de la TPS et le chèque de 250$ de Justin Trudeau comme des mesures électorales pour aller chercher des votes. Mais à l'inverse, il y a quand même 2 personnes sur 10 qui croient qu'il s'agit d'une bonne mesure pour aider les gens à lutter contre l'inflation. Eh bien, au sport, ce qui retient vraiment l'attention, c'est la victoire du Canadien de Montréal. 2-1 en prolongation grâce à un but de Nick Suzuki, le capitaine. Et le but en temps réglementaire, le seul du CH, a été marqué par Patrick Laine qui était de retour au jeu en avantage numérique sur une passe de Lane Hudson. Qu'est-ce qu'on aurait pu vouloir de mieux? Ben content pour Patrick Laine. Ça sent la coupe.
Ce segment d'émission, présenté par le Centre d'inspiration électrique Kia.
Vous considérez acheter un véhicule électrique? Peu importe la marque à laquelle vous songez, passez à notre centre d'information. Ici, on ne vend pas de véhicules. On informe et on explique. Passez au Centre d'inspiration électrique Kia. Peu importe la marque qui vous inspire.
Les domaines du cinéma, des jeux vidéo ou de la publicité te passionnent? Voici ta chance d'en faire carrière. Le Collège Barthes te propose plusieurs programmes. Animation 3D, effets visuels, programmation en jeux vidéo et photographie et création numérique. Tous les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca.
Pourquoi j'adore acheter mes cadeaux chez Pharmaprix? Pour les points PC Optimum. Du parfum pour maman, des points pour moi. Du chocolat pour son prof, encore des points. Pharmaprix, allez-y, les exclusions s'appliquent.
Vos invités qui restent à dormir à Noël? Pensez à la boîte déjeuner de Croque-en-Bouche pour le lendemain matin. 4 mini croissants et chocolatines, 8 saucisses déjeuner, fèves au lard à l'érable, une baguette tartinade chocolat noisette faite maison et une quiche au jambon. Visitez croquembouche.com.
Profitez de la vente du Vendredi fou chez Grèche et Scaff. Jusqu'au 7 décembre, économisez minimalement 30% et jusqu'à 80% sur les montures et les solaires à l'achat de la paire complète. Oui, jusqu'à 80%. Jacinthe Laurendeau, opticienne. Détail et rendez-vous sur grèche-scaff.
Votre aventure commence ici. Avec Efficience Soins Infirmiers, obtenez une consultation santé voyage complète avant votre départ. Profitez d'un service sur mesure pour des vacances en toute quiétude. Venez nous voir à Charlebourg, Le Bourgneuf ou Lévis pour préparer votre voyage en toute confiance.
Le Grand Marché de Québec.
Bonjour, je suis Patrick Miseau, propriétaire de la boîte à pain au Grand Marché de Québec. Nous vous proposons une grande variété de pains succulents, de pizzas napolitaines, de viennoiseries, de sandwichs savoureux et d'exquises pâtisseries. Je fais partie des marchands fiers d'être au Grand Marché de Québec.
Hey, la chambre est assez spectaculaire.
Oui, j'aime vraiment comment ils aménagent ça.
Puis il paraît que le coin est vraiment tranquille. Bon, peut-être moins dans ce coin-ci, là.
Faites comme chez vous. Seulement sur centris.ca.
En tout cas, la cuisine est belle.
Ouais, vraiment. Puis ça a l'air de quoi, la salle de bain?
Ah! Faites comme chez vous. Seulement sur centris.ca. Le site de l'immobilier au Québec.
Peu importe que vous soyez du style Noël classique, rustique, Noël moderne ou même quétaine, retrouvez tout chez Floralie Jouvence. La plus belle variété de plantes et de sapins naturels et artificiels. Floralie Jouvence, le plus beau magasin de Noël. Ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h à Québec.
Au complexe du Phoenix, les lundis soirs de 19h à 23h, on chausse nos bottes de cowboy avec Maryse, notre coach de Dance Country. Amenez votre chapeau, votre sourire et on fournit le plaisir et la musique. C'est gratis. Manquez pas ça, phoenixduparvis.com.
Les plus beaux cadeaux sont ceux qui se vivent. Cette année pour Noël, offrez une expérience inoubliable. Trouvez le présent parfait à La Forfaiterie. En boutique ou sur laforfaiterie.com.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant! Viens étudier au centre-ville avec des enseignants spécialisés dans leur domaine. Technique juridique, marketing des médias sociaux et animation radiophonique du CRTQ. Tous les programmes du Collège Barthes sont admissibles aux prêts et bourses. Détails sur barthes.ca.
La météo présentée par Sobab. Ta belle famille descend pour les fêtes? Fais plaisir au beau-papa et équipe-toi chez Café Sobab. Crois-moi, toi aussi, tu vas en avoir besoin.
Open mic! Avec Marceau et Audrey Pinchot.
Ça fait déjà quelques jours que Pinchot m'agace en me disant « Yann, faut que t'écoutes le documentaire « La drogue du viol ». Faut que t'écoutes le documentaire « La drogue du viol ». Puis je me suis dit « Tiens, lorsque j'aurai le temps, je vais le faire ». Puis dans les derniers jours, j'ai eu la chance de tomber sur ce fameux documentaire-là qui est présenté sur Tout TV. Et la dame derrière ce documentaire-là, c'est Marie-Ève Tremblay. Puis Audrey, le fait que tu me pousses à regarder ce type de documentaire-là, parce que je pensais avoir tout entendu sur le fameux GHB, là, « La drogue du viol », que je me disais, mais pourquoi je vais me taper ça vraiment? Tu m'en veux à ce point-là? J'ai fini le documentaire, puis je me suis dit, ah ben, criff.
À terre, hein?
Marie-Ève a réussi à m'avoir, puis je me suis dit, ben, tiens, on va l'inviter à l'émission. Donc, Marie-Ève est là. Salut, Marie-Ève!
Salut!
Marie-Ève Tremblay, tu es journaliste et animatrice au 98.5. Tu fais des documentaires aussi. De ce que je comprends, c'est qu'il y a quelqu'un proche de toi qui est malheureusement décédé de la drogue du viol. Est-ce que c'est ça qui a été le point de départ du documentaire que tu voulais faire?
Non, ça n'a pas été le point de départ, mais c'est sûr que depuis que je suis jeune adulte, j'ai toujours eu peur de cette drogue-là, le GHB. Parce que cette fille-là, moi je viens du Saguenay, c'est Véronique. On a appris qu'elle était morte subitement pendant la nuit, puis que c'était probablement en lien avec le GHB. Puis là, c'était très tabou, tu sais, on n'osait pas poser de questions parce que tu dis, ben là, c'est la drogue, le GHB. Puis j'ai obtenu les rapports de coroner dans le contexte du documentaire. Puis finalement, on a compris qu'elle avait consommé de l'alcool, elle était avec une coloc.
Ouais.
Puis qui ont décidé, en rentrant à la maison, de prendre GHB dans un verre de lait au chocolat. Puis qu'elles ont un peu perdu la carte, les deux. Puis que Véronique ne s'est jamais réveillée. Ce qu'elle a fait, c'est un arrêt cardio-respiratoire. Mais moi, quand j'étais jeune adulte, j'avais juste entendu « Véronique est morte, puis il y aurait un lien avec le GHB ». Donc, déjà là, ça partait comme ça. Puis en 2023, il y a eu une vague de témoignages publics sur les réseaux sociaux de femmes qui disaient avoir été droguées à leur insu, qui mettaient un peu de pression, tu sais, sur notamment le gouvernement en disant « on a l'impression d'être complètement abandonnés ». On a envie d'être testé, de savoir si c'est vraiment ça. Il n'y a aucun lieu où aller. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites absolument rien. Puis là, ben, ça tombait comme des petites mouches. Donc, je me suis mise à faire des chroniques à ce sujet-là. Puis chaque fois que j'en parlais, j'apprenais des choses. La première que j'ai apprise, c'est qu'il existe des sous-verres pour... puis, tu sais, on en parle beaucoup pour tester les consommations. Mm-hmm. Fait que tu arrives dans un bar, tu dis, tu te commandes un gin tonic, je sais pas trop, puis OK, je peux prendre ce sous-verre-là, puis mettre une goutte de mon verre sur le sous-verre, puis ça va me dire s'il y a du GHB dedans ou pas. Fait que j'avais fini une chronique en disant, pourquoi il n'y a pas ça partout?
Mais c'est-tu vraiment fiable? Parce que ça, tu l'abordes dans le documentaire, ça fait comme partie des solutions, mais de ce que je comprends, on peut pas totalement s'y fier non plus, là.
Ben non, c'est ça, puis tu sais, moi, à la radio, la première fois que j'en parle, je dis, pourquoi il n'y a pas ça partout? Puis il y a quelqu'un qui m'appelle après, puis qui me dit qu'il est spécialisé, qui fait comme « Marie-Ève, ça vaut pas de la marde, ces sous-verres-là. » C'est-à-dire que, puis là, c'est ce qu'on a testé, ce qu'on a appris, c'est que ce sont des détecteurs de pH et non pas de drogue. Alors, si un liquide qui est très fort en pH, ça peut ressortir positif. On a fait le test avec un verre d'eau. Le verre d'eau, c'est comme s'il y avait du GHB. Alors là... Puis là, mettons qu'il y a du lait, ça altère. Si le drink est super acide comme un gin tonic, ça va sortir négatif, même s'il y a du GHB dedans, parce qu'on l'a fait, on a mis du GHB dans un gin tonic, c'est sorti négatif. Alors là, il y a des personnes qui peuvent se retrouver avec ce test-là, puis se dire, j'ai été droguée, mais il y a quelqu'un qui a voulu me droguer, c'est un faux positif.
Ouais. Ça pourrait être la piscine chez nous qui teste positif au GHB. Tu sais, Marie-Ève, juste pour te dire à quel point ça allait évoluer, là, moi, je me souviens que quand on a commencé à parler de ça, du GHB, écoute, j'étais à la radio à ce moment-là, puis on parlait avec les autorités policières, puis souvent, les policiers prenaient pas ça au sérieux en disant, ben non, il y en a pas tant que ça. Puis la plupart du temps, quand on parle aux victimes, on se rend compte qu'il avait pris une bonne brosse. Tu sais, c'était
un verre de trop.
Les policiers ne prenaient pas les victimes au sérieux au départ. Puis au fil du temps, les choses ont avancé. Il y a plus de connaissances qui ont été amenées à nos autorités policières. On a appris aussi qu'il y a des gens qui prennent ça pour s'amuser du GHB parce que ça coûte moins cher que des consommations d'alcool. Puis là, ben, les policiers se sont rendus compte que peut-être qu'au travers de ça, il y a des vraies victimes. Puis il y a des gens qui étaient autour de moi, parce que je travaillais dans la restauration longtemps aussi, qui me mentionnaient « Yann, j'ai pris deux verres, j'étais sur la grande allée, puis je suis tombé pratiquement sans connaissance, comme une mouche. C'est sûr qu'il m'est arrivé de quoi. » Ces gens-là se sont pointés à l'hôpital, puis d'ailleurs, tu en parles dans ton documentaire, là. À l'hôpital, ils peuvent essayer de te faire déguériser puis attendre que ça passe, mais la drogue, le GHB, est extrêmement difficile à détecter dans le sang, de ce que je comprends.
Ouais. C'est moins de 12 heures dans l'organisme où c'est détectable. Mais moi, ma plus grande surprise par rapport à tout ça, c'est qu'il y a au-dessus de 200 substances qui peuvent être utilisées pour droguer quelqu'un à son insu. Qu'on parle énormément de GHB. Puis le GHB, c'est vrai, tu le dis, là, ça disparaît vite, puis c'est difficile de le détecter. Il faut vraiment aller rapidement. Mais c'est qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser du Xanax, des benzodiazépines, des somnifères, de la kétamine.
Dans les verres?
Oui. Puis tu fais comme OK, c'est très difficile de s'y retrouver. Moi, j'ai toujours pensé que c'était le GHB, la drogue du viol. Mais c'est pas pour rien que le documentaire, c'est drogue du viol au pluriel, drogue avec un S. C'est qu'il y a plein de drogues qui peuvent servir à ça. Puis, tu sais, on parle de l'alcool, puis c'est vrai que c'est un jugement qui revient souvent, la personne a trop consommé et tout ça. Mais la principale drogue du viol, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est l'alcool. C'est-à-dire que d'encourager quelqu'un à boire, du payer des shooters, dans l'idée qu'elle se rende plus à l'aise, qu'elle devienne plus facile, je mets ça entre
gros guillemets. Vulnérable aussi.
Plus facile d'approche, plus vulnérable. Bien, ça, c'est ultra fréquent, c'est ce qui est le plus fréquent. Puis aussi, en discutant avec un inspecteur, un enquêteur de l'Australie, une autre technique, c'est qu'il y a des personnes qui mettent plus d'alcool dans le verre qui a été commandé. C'est-à-dire que tu demandes un gin tonic, tu penses que tu as une once d'alcool là-dedans, tu prends ça, mais finalement, il y a 3-4 onces. Puis tu le goûtes pas vraiment parce que le drink, c'est déjà fort, tu fais comme « Ouh, c'est fort! » Fait que là, après 2 consommations, tu te dis « Mon Dieu, j'ai perdu la carte, j'ai juste pris 2 consommations. » Non, en réalité, tu en as pris 8 en l'espace d'une demi-heure. C'est possible que tu aies perdu la carte. Puis c'est ça qui est un peu fou et mélangeant. C'est qu'il n'y a pas une drogue facilement détectable. Mm. C'est qu'il y en a plein. Puis si on parle du GHB en particulier, ben là, ça disparaît vite. Fait que les personnes vraiment mal intentionnées, c'est ça qu'ils vont utiliser parce qu'elles savent que mais il y a de très fortes chances qu'on ne soit jamais capable de détecter parce que ça disparaît trop vite.
Mais qui drogue Marie-Ève? Puis pourquoi si c'est pas d'abuser quelqu'un physiquement? Parce que de ce que je comprends, tu as du monde qui font ça pour le fun, là.
Oui, bien c'est ça qui est le plus fou aussi, c'est qu'il y a des personnes qui font ça juste pour le plaisir de prendre le contrôle de quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas toujours dans l'esprit d'abuser de quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de soumission chimique. Je sais pas si vous avez remarqué, jusqu'à tout récemment, on parlait de drogue du viol, mais là, on parle de soumission chimique. C'est parce que quelqu'un peut décider de mettre de la drogue dans le verre de quelqu'un à son insu avec un autre objectif que de violer l'autre personne. Il y a ça, prendre le contrôle de quelqu'un pour le plaisir. Il y a aussi pour voler quelqu'un. Puis chaque fois que j'en parlais à la radio, j'avais ce commentaire-là aussi de gars dans la messagerie qui disait « Ça arrive aussi aux gars. » J'ai le témoignage de quelqu'un qui est pratiquement certain d'avoir été drogué à son insu. Il s'est réveillé ensanglanté dans un banc de neige à Montréal en plein hiver, entre Noël puis Jour de l'An. Puis il avait été volé. Il n'y avait plus de carte, il n'y avait plus de clé. Il est arrivé à sa voiture. Sa voiture avait été volée, vandalisée. Fait que ce gars-là, lui, avait été drogué pour se faire voler. Puis autre chose que j'ai entendue, tu sais, il y a des personnes qui font ça juste pour le plaisir de voir d'autres perdre la carte. Tu sais, il y a l'idée de prendre le contrôle, mais il y a l'idée de faire « Hey, il y a des banquettes, ça c'est bien populaire là, dans les clubs. » Les gens achètent une banquette avec des bouteilles d'alcool fort, des jus.
Des jus et tout, là.
Bien, il y a du monde qui se promène, qui met ça soit dans le jus ou soit dans l'alcool fort en disant « Hey, on va les regarder pour le fun, perdre la carte comme des petites mouches. » Puis ça m'a été exposé par des policiers. On parle de pêche à la dynamite. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, fait ça. Puis là, les policiers se retrouvent à ramasser 4, 5, 6 personnes sur le bord du chemin, complètement, tu sais... décédés.
Ben, ils ne sont pas décédés. Oui.
sont plus là.
Faut le dire, ouais, les gens qui ont jamais vécu ça ou qui ont jamais vu quelqu'un dans cet état-là, c'est tellement dur à expliquer, mais t'es, t'as plus aucun contrôle sur toi-même, en fait, dépendamment de la dose qui t'a été imposée. Là. Et quand on dit tu perds la carte, là, si tu te vois... là, c'est un drôle de... Yann, t'as-tu déjà été, j'allais dire euthanasié, c'est tellement pas le bon
vendredi
mot.
Passé.
Non, t'as-tu déjà été... tu sais, quand tu te fais opérer, voyons le mot.
Endormi.
Ah ben oui, endormi tranquillement, anesthésié. Pas vite. Anesthésié, ouais, mon voilà. Dieu, mon français à matin. C'est comme un sentiment de 5, 4, 3, prou, plus rien.
Oui.
C'est vraiment ça.
C'est que si on parle du GHB en particulier, ça arrive très, très rapidement. Parce que les personnes qui perdent la carte, on parle de surdose. Parce qu'il y a énormément de personnes qui consomment ça juste pour le plaisir, puis ils ne perdent pas la carte. Là. Ils sentent vraiment comme sous, sans avoir consommé rien. Mais dès qu'il y a une surdose, ça peut être même... C'est très faible, la différence entre le récréatif et la surdose où tu perds le contrôle. T'sais, on parle de quelques millilitres. Ben là, c'est 20-30 minutes. Fait que tu peux être là en train de danser sur la piste de danse, t'as du fun, là, puis là, tout d'un coup, pff,
t'es parti.
T'étouffes. Puis j'ai une amie à qui c'est arrivé pendant que je travaillais sur le documentaire. Elle s'est réveillée au milieu de la rue avec du monde autour d'elle. Elle n'avait pas été agressive. C'est comme, t'es-tu correct? Mais elle dit, j'ai pris mon verre. Après 20 minutes, je suis sortie dehors, fumée une cigarette. Ça ne fonctionnait plus. J'ai voulu marcher vers chez moi. Elle ne s'est jamais rendue.
Ah, c'est fait complètement
c'est,
fou.
C'est en un claquement de doigts. Puis c'est pour ça que quand on sort avec des amis, il faut être à l'affût de ce changement-là drastique de comportement. Si tu as un ami qui est là, qui danse, qui va bien, puis qu'après 20 minutes, il n'est plus là ou qui commence à disparaître, commence fortement à soupçonner qu'il y a eu quelque chose dans sa consommation. Mets-la en sécurité.
Marie-Ève Tremblay, dans ton documentaire « La drogue du viol », il y a une des victimes qui m'a marqué, en fait, les trois victimes, ben quatre, si on compte l'homme que tu as rencontré, là,
ouais.
Il y en a une qui m'a marqué qui dit « C'est pas à nous méfier, c'est à ces salauds-là d'arrêter ouais. de faire ça. » Puis c'est tellement vrai, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Faut parler de ce type de produit-là qui est utilisé pour violer des gens, qui est utilisé pour voler des gens. Tu en parles dans ton documentaire. Tu dis une petite quantité de GHB pourrait tuer quelqu'un. Je pense ouais. que le message n'est pas passé dans la population.
Ben, si le message n'est pas passé, c'est qu'il n'a pas été communiqué. Quand j'ai lu le rapport de coroner de ma connaissance quand j'étais adolescente, là, ouais. ça disait il faut sensibiliser les gens, les consommateurs, au danger de ces drogues-là. Puis ça n'a jamais été fait. Moi, la seule sensibilisation que j'ai eue, c'est le décès de cette fille-là. Après ça, effectivement, tu sais, c'est de la faute aux personnes qui font ça. C'est pas de la faute aux victimes qui se font droguer à leur insu. Par contre, il y a rien pour protéger. Donc, je comprends qu'on peut critiquer. Tu sais, le gouvernement avait distribué des capuchons pour mettre sur les verres. Ça s'appelait ouais, « check ton verre ». Si on mettait la responsabilité sur les victimes. Puis c'était très critiqué, puis je le comprends. Mais après avoir fait toutes ces recherches-là, après avoir discuté avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, où il est comme, ben si ça peut aider au moins une personne, pourquoi on le fait pas? Je comprends un peu mieux que tout ce qu'on peut mettre en place, il faut le faire. La responsabilité n'incombe pas aux victimes, mais après ça, comme on n'a pas de données, on n'a pas de statistiques, on ne sait pas vraiment qui fait ça encore tout à fait, ben il faut donner des moyens pour se protéger, puis surtout dire aux personnes à qui on croit que c'est arrivé, ben aller à l'hôpital, aller à l'urgence, aller vous faire tester, parce qu'avec ça, on va arriver à bâtir une base de données. Il va y avoir des enquêtes qui vont être ouvertes. On va arriver à attraper des personnes. Mais... puis on va arriver à mieux prévenir. Non. Pour le moment, la prévention ne tient absolument à rien.
Marie-Ève, j'ai l'impression que les gens n'osent pas en parler ou porter plainte ou parce que tu as le sentiment que ça ne donnera rien. T'sais, les policiers ont tellement de chats à fouetter autre que ça. Surtout si tu te réveilles en plein milieu d'un banc de neige, tu n'as personne à accuser, tu n'as personne à viser. C'est comme difficile. Puis on dirait que souvent, c'est la victime qui va se sentir un peu honteuse de ne pas avoir surveillé son verre, justement. J'ai l'impression qu'on entend peu parler du phénomène parce qu'il y a juste des dénonciations quand il y a des violences. Est-ce que je me trompe?
Oui, souvent quand c'est extrême. D'ailleurs, ça me fait penser à une femme que j'ai interviewée, Yasmina. Elle, c'était dans un parc. Elle a travaillé dans un établissement scolaire. C'était un party de fin d'année scolaire. Puis là, ils sont tout le monde. Puis finalement, elle avait son petit cidre, elle a pris 3-4 gorgées. Puis elle a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Puis elle est retournée chez elle. Puis elle a eu de la difficulté à retourner chez elle. Puis c'est comme « Hey, c'est arrivé dans un contexte avec du monde que je côtoie, que je connais et tout ça. » Puis là, quand je suis arrivée pour l'interviewer, avant que ça commence, elle me dit « Marie-Ève, j'espère que tu ne me donneras pas trop de place dans ton documentaire. » Je dis « Pourquoi? » Elle dit « Moi, mais c'est parce que moi, j'ai pas une histoire dramatique. J'ai pas été violée, j'ai pas été agressée. J'ai juste été droguée à mon insu. Fait que donne-moi pas trop de place. » Comme si son histoire était illégitime.
Ouais.
J'ai dit « Écoute, c'est un acte criminel. La personne qui a fait ça, c'est criminel. »
Exact, exact. Puis t'as
victime. Puis t'as raison quand tu dis « Est-ce qu'on en parle juste quand c'est dramatique? » Peut-être oui, puis même dans ce contexte-là, c'est assez rare, parce que même ces victimes-là de gestes comme atroces, agressées sexuellement, sont gênées, il y a ça. Puis au-delà de ça, les personnes qui subissent ça, qui ne sont pas agressées, vont encore bien moins aller parler en se disant « Il y a des histoires vraiment pires que la mienne. » Alors que ce qui est le plus fréquent, à ce que je comprends, je n'ai pas de statistiques, c'est du monde qui ne sont pas agressés. Fait que c'est pour ça qu'il faut en parler aussi.
Je regarde la loi, cet effet, là, le fait d'administrer une substance délétère à quelqu'un, ça pourrait être passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. T'as-tu l'impression que ceux qui se sont fait déclarer coupables d'avoir donné du GHB à quelqu'un dans le but de la ou le dominer, là, t'as-tu l'impression qu'on a donné la sentence maximum de 14 ans? Je pense pas, on aura entendu parler.
Bien, il y a quand même des grosses sentences, puis ensuite, ça dépend de l'ampleur, parce que ceux qui ont été arrêtés, accusés, puis qui ont été reconnus coupables, ils ont fait plusieurs victimes, tu sais. Puis là, on parle vraiment d'agression sexuelle. À ma connaissance, quelqu'un qui a fait ça pour le plaisir, qui n'a pas eu d'agression, j'ai pas vu personne qui a été arrêté. Fait que ça, c'est déjà un point de départ, là, tu sais, où il y a rien. Pour la peine de prison, ça me semble... comme il n'y a pas beaucoup de cas, tu sais, les victimes semblaient dire que justice avait été rendue puis que c'était assez sévère. Mais encore là, il faut arriver à le prouver. Puis, tu sais, ce sont des cas où il y a plusieurs victimes. Tu sais, quelqu'un, je pense que c'est le violeur de Tinder,
ouais.
Font des percussions, puis il voit dans le téléphone, dans les objets électroniques, qu'il y a plein de photos de personnes qui ont l'air inconscientes, qui ont été agressées. Puis là, le travail de la police, c'est de retracer ces personnes-là puis de leur dire, ben il y a des photos de vous. Fait que souvent, les victimes, en plus, apprennent qu'elles ont été agressées quand on attrape ces personnes-là.
Mais oui, parce que t'as aucun souvenir.
T'avais pas. Ouais. Mais, tu sais, pour les peines de prison, tu sais, moi, je suis pas positionnée pour dire si c'est assez sévère ou pas, mais c'est pas quelque chose qui ressort, je vous dirais, dans mes recherches comme quoi c'est pas assez sévère. Je pense que le point de départ, avant de dire si c'est assez sévère, c'est... d'arriver à les arrêter puis les attraper, ce qui arrive très peu souvent. Là.
Est-ce que, bon, les policiers, t'as fait un tour de voiture de police, t'as jasé un peu avec eux autres, t'as rencontré des enquêteurs dans ce type de dossier-là. Est-ce que les policiers recherchent les produits qui sont utilisés pour ce qui est du GHB? Puis je vais être très honnête avec toi, Marie-Ève, tantôt, j'ai consulté ChatGPT pour me donner la recette du GHB, puis il a pris la peine de me dire que c'était complètement illégal de donner la recette, mais quand même, il me donne la recette, puis c'est extrêmement simple. T'as pas besoin d'être un chimiste de Breaking Bad pour connaître ça.
Non, c'est d'ailleurs ce que dit le docteur, l'urgentologue, spécialiste toxicologue, docteur Martin Laliberté. C'est ça qui est terrible, c'est que n'importe qui peut fabriquer ça dans son sol sans avoir un équipement spectaculaire. Les policiers... eux, ils font des saisies. Puis justement, d'ailleurs, il y avait une grosse saisie en 2022-2023 dans le coin de Montréal. C'était des centaines de milliers de doses. Puis là, c'est drôle, je me disais, c'est clairement pas destiné à violer des centaines de milliers de personnes. C'est impossible, tu sais. C'est vraiment pour la consommation récréative. Mais les policiers, par contre, quand ils travaillent sur une enquête concernant une soumission chimique, bien là, c'est sûr qu'ils vont chercher à identifier les substances et tout ça. Dans le cas de Ottawa, qu'on expose dans le documentaire, où c'est un gars aussi qui rencontrait des personnes sur les réseaux sociaux et tout ça, ils ont perquisitionné son appartement, puis ils ont trouvé GHB, ils l'ont identifié et tout ça, puis vraiment, les liens sont très, très clairs. Fait que les policiers, ils sont pas genre, « Oh mon Dieu, soumission chimique, on n'essaie pas de savoir c'est quoi, là, pas du tout. »
Comment les tenanciers de bord voient ça, hein?
J'ai pas discuté avec tous les tenanciers de bar. Ce que je sais, c'est qu'ils souhaitent être accompagnés et soutenus. J'ai discuté avec Pierre Bourque, propriétaire du Nacho Libre à Montréal, où il y a eu au moins 2 cas documentés qui ont fait les manchettes. Il me disait la première fois, c'est isolé tout seul. La deuxième fois, est-ce qu'on a un problème? T'sais, est-ce que c'est nous le problème? Il m'expliquait avoir des caméras qui étaient fonctionnelles, de collaborer avec la police. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il donne la formation à tous ses nouveaux employés pour reconnaître les signes. Si c'est quelqu'un qui est là, qui a l'air à perdre la carte, OK, on arrive, on intervient. Parce qu'Angélique, qui exprime son histoire dans justement son témoignage, dans le documentaire, est comme ils l'ont sorti dehors, ils l'ont mis sur le trottoir, il pleuvait, comme si on se débarrassait de ce cas-là. Puis ça, c'est pas la chose à faire. Fait que ce propriétaire de bar-là, lui, ça l'a suffisamment bouleversé pour qu'il décide de s'y attaquer puis de prendre ça au sérieux. Après ça, est-ce que c'est répandu? Je pourrais pas m'avancer là-dessus, mais je pense pas que c'est pris tant que ça au sérieux.
Écoute, tu sais, nous autres, à Québec, sur la Grande Allée, je connais 2 à 3 propriétaires là, qui prennent la situation très au sérieux. Puis si jamais il y a un barman ou une barmaid qui est soupçonné de mettre des produits complètement illégaux à l'intérieur des verres de clients, c'est tolérance zéro. Il n'y a même pas d'avertissement. C'est merci, bonsoir. Puis c'est un appel à la police. C'est ce qu'on m'a raconté. Mais tu sais, on se demande si c'est répandu. Il y en a partout au Québec. Il y en a partout au Canada. Puis ce qui m'a fait halluciner, Marie-Ève, puis j'imagine que vous en avez parlé au 98.5 à Montréal, c'est de voir que dans des resorts 5 étoiles au Mexique maintenant, ou encore, je sais pas moi, dans une autre destination soleil, il y a des clients qui se font empoisonner par le GHB. Ouais. Donc, c'est mondial, ça, là.
Ah, c'est vraiment partout. Puis, il y a de plus en plus de pays qui décident de mettre des mesures en place. Là, en Angleterre, on vient tout juste de se doter d'une loi pour justement une loi de formation et tout. Après ça, en Californie, on a rendu obligatoire la disponibilité des sous-verres, mais là, bon, moi, je le dis, c'est de la merde, fait que je pense que c'est...
Tu fais bien de le dire.
On va leur envoyer l'extrait.
Ouais, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est une mesure un peu, mais tout le monde essaie de trouver des solutions, là. C'est partout, 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 partout. On voit le cas des viols de Mazan en France en ce moment, qui est en procès. On attend le verdict du jury, on attend... c'est un homme, un mari qui a donné un agent de soumission chimique à sa femme, qui s'est fait violer par des dizaines d'hommes. Ça se passe en France, on en parle beaucoup ici. C'est un phénomène, c'est un fléau mondial, clairement.
Tu disais tantôt que tu as parlé avec le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Y a-tu des... Bon, solution est un grand mot, j'imagine, rendu là, mais y a-tu des plans peut-être qui s'en viennent? Parce que moi, je veux lever mon chapeau, Marie-Ève, au fameux TOP, là, TUP, là, les trucs protège-verts.
Les cartons, oui.
Oui, c'est comme un genre d'aluminium. Tu mets une paille à travers ça. Là, il y a une couple de bars à Québec qui les ont. Je veux saluer le Phoenix, qui sont clients chez nous. Puis j'ai au nombre de fois où j'ai eu accès à ça là-bas, c'est magique. Encore une fois, il y a de quoi de triste parce que c'est toi qui dois t'occuper de ton propre verre. Mais est-ce qu'on réfléchit à ça en ce moment au gouvernement?
Bien, clairement. Puis c'est surtout les témoignages qu'il y a eu qui ont mis une pression sur eux où ils ont décidé de mettre en place le projet Trajectoire. En décembre 2023, fait que ça va faire 1 an là, dans quelques jours. Avant ça, il n'y avait aucune possibilité de se faire tester, aucune ressource. Le gouvernement a fait, après les dénonciations, OK, on agit. Donc là, maintenant, il y a les trousses légales par le biais de ce projet-là, Trajectoire, où tu peux te présenter dans n'importe quelle urgence au Québec.
Puis, ça fait juste 1 an?
Ça va faire 1 an.
Ouais, ouais, mon Dieu, dans ma tête, c'était moins récent que ça. Par exemple, c'est épouvantable.
Oui, bien, c'est pas très bien communiqué, honnêtement. C'est pas connu. C'est arrivé, tu sais, je le disais plus tôt, c'est arrivé à une de mes amies qui est très, très bien informée. Elle travaille dans les médias aussi. Puis là, j'étais comme, OK, tu vas à l'hôpital, tu vas faire la trousse. Ah, les trousses, c'est quoi ça? Je suis comme, bien, voyons donc, les trousses. Elle dit, c'est où ça, au CLSC? Je suis comme, non, dans les hôpitaux. Elle n'était pas au courant. Fait qu'ils ont mis des mesures en place qui sont vraiment, vraiment intéressantes. C'est un gros pas en avant. Après ça, ce serait bien de peut-être mieux le communiquer puis de commencer à amasser des données. Mais je dirais qu'on a bougé, là. Tu sais, si j'étais là pour... Si j'avais des arguments pour poquer le gouvernement puis dire comme « qu'est-ce que vous faites » et tout ça, je serais dans l'erreur parce qu'on a vraiment bougé. Après ça, vous avez bougé. Comment vous le faites? Ça, c'est une autre question. Tu sais, c'est pas parfait, là.
À suivre. J'ai beaucoup aimé ton documentaire « La drogue du viol », Marie-Ève Tremblay. Puis si ça peut servir de matériel d'éducation pour plus jeunes, parlez à vos plus jeunes, dites d'écouter ça. C'est disponible sur Tout TV. C'est pas très long à écouter, là. C'est en 45-50 minutes. Là. Puis moi, ça a été très, très, très instructif. Je te souhaite de passer une belle fin de journée, Marie-Ève.
Et puis continue.
Ben, merci. Merci à vous deux. Bonne émission. Bonne émission.
Continue à nous faire des beaux projets comme ceux-là. On a besoin de ça pour s'éduquer. T'es la bienvenue quand tu veux en passant.
Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Au plaisir.
Salut, bye-bye. Marie-Ève Tremblay, qui est journaliste et animatrice au 98.5 à Montréal, qui a fait le documentaire « La drogue du viol » qui est disponible sur Tout TV. Puis, sérieux, je comprenais pas pourquoi tu voulais que je me tape ce documentaire-là.
Je t'avais dit qu'il fallait que tu m'écoutes plus souvent.
Puis, à la fin du documentaire, j'étais là, « Aïe, aïe! »
Mais je trouve tellement que c'est bien fait, puis... Tu sais, je l'ai dit brièvement là, à Marie-Ève avant qu'on entre en onde, mais moi, je l'ai déjà vécu, le fait d'être droguée. Bon, je suppose au GHB, parce que c'est bien dur de savoir si réellement c'est ça. Puis honnêtement, Yann, c'est un des sentiments les plus détestables du monde parce que t'es vulnérable contre ton gré. Il y a une panique qui s'installe en dedans qui est complètement inexplicable. Ça, c'est avant que tu tombes carrément dans les pommes puis que tu te réveilles à un moment donné sans trop savoir ce qui s'est passé, là. Et puis moi, je me suis réveillée, en fait, à l'hôpital. Mes parents étaient venus me chercher, puis c'était par des gens que je connaissais en plus. C'est épouvantable, ce feeling-là. Puis des fois, les gens se trouvent drôles, mais ne réalisent pas les impacts que ça peut avoir. Moi, ça crée une peur chez moi, là. Quand je sors, si je perds mon verre de vue, c'est terminé, j'en commande un autre, là. Je ne reprends pas une gorgée, là.
Mais faut que la honte change de camp.
Oui, tu as raison, mais c'est difficile parce que tu n'es pas cru.
La victime qui est retrouvée dans un bain de neige, qui n'est pas capable de retrouver le fil du temps, ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit, à qui j'ai parlé, qui a mis ça dans mon verre, pourquoi la personne m'a fait ça, qu'est-ce qu'elle avait comme intérêt de me faire ça, qu'est-ce qu'elle m'a fait.
Mais c'est difficile parce que tu peux juste supposer, Yann.
Te faire voler, bon, on s'entend que c'est un type d'agression, là, mais te faire violer, je veux dire, y a-tu quoi de pire que ça? Là?
C'est, ça n'a pas de bon sens, puis c'est encore plus difficile pour ces victimes-là d'agressions sexuelles parce que tu n'as pas de souvenirs. J'ai eu le malheur d'accompagner, quand j'étais au cégep, une jeune fille qui a vécu une agression après s'être fait droguer. Puis ça a été médiatisé. Là. Un, ça te fucked up une vie bien raide. Là. Mais de deux, c'est difficile parce qu'après ça, essaie d'être crédible dans ton témoignage auprès des policiers. Tu te souviens de rien.
Non. Puis de plus en plus, on en parlait avec Marie-Ève tantôt, de plus en plus, les policiers sont conscients de ça, que ça existe. Parce que je suis très honnête avec toi, là, au début, c'était une affaire de petite fille qui avait trop bu d'un bar.
Ben oui!
Puis, bien souvent, c'était ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait un pourcentage là-dedans, que c'était des filles qui s'étaient faites droguer, puis ces filles-là n'étaient pas crues.
Mais tu sais, c'est à cause de ces réactions-là que, je veux dire, on sent pas qu'on va être entendu.
Exact.
Tu te dis, ah, ben peut-être que je l'ai vraiment pris trop le verre. Peut-être que j'ai pas assez mangé avant. Tu sais, tu trouves des raisons en te disant, impossible que quelqu'un ait mis quelque chose dans mon verre, mais c'est tellement fréquent, là.
Puis, tu sais, les demandes d'accès à l'information que Marie-Ève a faites, qu'elle présente dans le documentaire. T'sais, on n'a pas de documentation par rapport à ce produit-là. On n'est pas capable de
trouver
le profil type de l'agresseur.
Non.
Pire que ça. C'est-tu un jeune homme de 25 ans qui va faire ça ou bien...
Un bonhomme de 45?
C'est une madame riche qui s'intéresserait à moi de 71 ans qui est milliardaire.
Mais pire que ça, au niveau de l'éducation, elle a un point qui est tellement intéressant. Quand j'étais ado, j'avais des amis qui faisaient de la compétition de bodybuilding. Et l'avantage, entre gros guillemets, là, on s'entend, là, des drogues comme le GHB, c'est que, tu comprends, tu n'as aucune rétention d'eau, tu n'as pas de sucre, tu n'as rien là-dedans. Là. Ce qui fait que moi, j'avais des amis qui prenaient une certaine quantité pour avoir le sentiment d'être complètement sous. Fait que c'était juste assez pour ne pas perdre connaissance. Puis il n'y avait aucun effet néfaste pour leur shape, tu comprends? Fait que eux autres, quand ils étaient pré-compétition, c'est ce qu'ils prenaient quand il y avait un party au lieu de consommer de l'alcool ou toute autre drogue. Okay. Puis à cause de ça, moi, je veux dire, plus jeune dans ma tête, c'était pas nécessairement dangereux le GHB. J'avais des amis qui consommaient ça puis ça allait bien. Mais après ça, tu te rends compte qu'il y a un énorme manque d'éducation parce que c'est pas ça pantoute, là.
Fait que ces gars-là qui faisaient du bodybuilding aujourd'hui à 30 ans, ils bandent plus, mais
mais
ils ont économisé
bon
de l'argent
point.
Pour leur alcool.
C'est épouvantable. T'as un méchant bon point, ça n'a pas de bon sens.
C'est des produits chimiques que
mais
les gens
ça rend ça ridicule.
Ben oui,
parce
ben
qu'après ça, on t'en propose, puis toi, tu sais pas ce que t'es capable d'avaler. Puis malheureusement, l'ami de Marie-Ève qui est décédée au Saguenay, c'était un mélange de